Nous savons, je replace la compassion dans le cadre du linge de l'amour, et donc notamment de l'amour du prochain. D'accord? La compassion, c'est un aspect de l'amour, l'aspect central de l'amour, c'est une expression particulière et profonde de l'amour, qui est, de l'amour du prochain, qui est quelque chose de plus important de ce que dit la loi, d'après Jésus lui-même, et qui le reprend dans l'enseignement qui fait ses disciples. Nous sommes invités à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est déjà assez compliqué. Et nous sommes invités à aimer ceux qui sont avec nous en Église, comme le Christ nous a aimés, c'est encore pire. Mais voilà, c'est important de resituer ça là-dedans. Pour le Nouveau Testament, notamment pour l'Évangile de Matthieu, l'expérience du salut, c'est authentique, c'est réel, c'est profonde, devrait nous amener à faire circuler la grâce reçue. Nous qui avons été pardonnés, nous devons faire circuler le pardon autour de nous. Sinon, il y a un problème. Ce que j'essaie de vous dire là est particulièrement bien dit dans Matthieu 18. Dans Matthieu 18, un texte auquel on a déjà fait référence, à propos du serviteur impitoyable. Le maître, vous vous rappelez que le maître, quand il a appelé le gars qui devait une somme affolante, a été touché, il a été remué dans son entraille, et il lui remit la dette. Ensuite, l'autre, il attrape un de ses copains qui lui doit pas grand-chose, et il refuse de lui remettre la dette. Et après, le maître fait appeler ce mauvais serviteur, et lui dit, « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'avais supplié. » Écoutez bien, c'est un truc qui est intéressant. « Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ?» Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi? Et l'exemple de la compassion, et donc, devrait logiquement nous amener, d'après la compréhension du salut qu'on trouve notamment chez Matthieu, devrait nous amener à faire compassion aux autres, et notamment dans le pardon et dans l'entrée. Sinon, ça veut dire que quelque part, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé avec le salut. C'est-à-dire, le maître lui dit, t'as rien compris, et donc on recommence à zéro. Et je te remets en prison, tu me touches, je te touche. Ce qui, de mon point de vue, ne veut pas dire qu'il va y rester jusqu'à la fin, mais peut-être qu'au moins, j'ai compris ce qui se passe. Je ne suis pas dans la certitude qu'il est perdu pour toujours. Cet homme, peut-être qu'il y a au moins quelque chose comme ça. Donc, nous sommes invités à témoigner de la compassion que nous avons reçue en ayant de la compassion autour de nous, par rapport à ceux qui nous entourent, par rapport à ceux que l'Évangile appelle notre prochain, nos prochains. L'Écriture ne nous dit jamais d'aimer tout le monde, elle nous dit d'aimer ce qu'on croise. C'est gênant parce que nous ne l'aimons pas l'autre. C'est facile d'aimer ceux qui sont très loin, éventuellement faire un petit chèque comme ça pour le sel. Et ceux que je croise à côté de moi, de ma famille déjà, c'est notre histoire. Mais c'est intéressant parce que l'écriture a donné la messe. Et il nous appelle à aimer ce prochain. Et dans un texte où Jésus remet en honneur cette centralité de l'amour du prochain, il y a un homme qui lui pose des questions et ça donne. Une parabole qu'on connaît bien, qui est la parabole de Bon-Samaritain. Qui est mon prochain? Vous vous rappelez ça? Qui est mon prochain? Et ça démarre ça. Et dans ce texte, il est question d'un Samaritain qui fut ému de compassion, ses entrailles sont remuées, lorsqu'il l'a vu, vous vous rappelez, il l'a vu. Les autres ont vu aussi, mais ils sont passés. Lui, par contre, ses entrailles sont remuées, il s'arrête. Et il le remarque. À la fin de cette histoire, Jésus pose la question suivante au maître de la loi avec qui il débat sur qui est mon prochain. Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des banques ? L'autre répondit, c'est celui qui a montré la compassion envers lui. Voilà. Retour à la compassion. Et Jésus dit quoi ? On aurait pu s'arrêter là, mais Jésus dit quoi ? Il dit, va, et toi aussi, fais le même. Donc, l'exhortation à la compassion, vous la voyez dans ce texte de manière particulièrement évidente. Et encore une fois, c'est une compassion pour le prochain réel, et pas pour le prochain abstrait ou le. Voilà. Qu'on croit jamais. Ça se vit dans le concret de nos relations immédiates. Et je termine avec l'exhortation à la compassion de chez Jésus, par un texte fameux, qui va vous faire longtemps, mais qui est à la fois flippant et très parlant, c'est la parabole du jugement dernier. Vous connaissez ce texte, hein ? Ceux qui ont mis à droite, ceux qui ont mis à gauche, et ça se joue sur le fait d'avoir une compassion concrètement de la part de personnes qui étaient dans le besoin. Des gens qui avaient faim, des gens qui avaient soif, des gens qui étaient nus, des gens qui étaient en prison, des étrangers, voilà. Et le jugement se fait là-dessus. C'est intéressant parce que le jugement ne se fait pas seulement, en tout cas pas dans Matthieu, il ne se fait pas seulement sur le fait que est-ce que tu es croyant ou pas croyant, si tu es croyant tu passes, si tu n'es pas bon tu passes pas, non. Matthieu introduit aussi cette parabole une dimension, mais c'est assez cohérent. Parce que si on a eu la compassion et qu'on l'a pas, et qu'on l'a pas à son tour eu la compassion des autres, il y a un truc qui ne colle pas. On est de nouveau dans le même raisonnement, avec cette histoire de cette parabole du jugement dernier. Donc on a cette exhortation à la compassion qui est très importante. Et une compassion qui se vit d'abord à l'intérieur de l'Église et qui se vit aussi à l'extérieur par rapport aux besoins de ceux que nous croisons. Et la question de la compassion, elle vient régulièrement dans le reste du Nouveau Testament. Je passe rapidement. Vous savez que Paul a eu un conflit avec un certain nombre de personnes de l'Église de Corinthe, une bonne partie de l'Église. Et puis quand il parle de cette crise qu'il y a eu avec les Corinthiens, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il leur dit à un moment, vos entrailles se sont rétrécies. C'est un langage imagé, évidemment, vos entrailles se sont rétrécies. Ou, comme traduit le français, votre cœur s'est fermé. Mais littéralement, ça veut dire, c'est vos entrailles se sont rétrécies, en fait, envers moi, Paul, c'est dans 2 Corinthiens 6, 12. Par contre, quand dans le même épître, Paul parle de Tite, Tite, il connaît bien les Corinthiens, il dit à un moment, les entrailles de Tite sont encore plus grandes, donc son amour est encore plus grand, lorsqu'il se souvient de vous, etc. Donc l'image, elle est présente, et on voit l'important pour Paul que cette compassion circule, cet amour circule envers les uns et les autres. Il dit aux Philippiens, je vous aime tous dans les entrailles de Jésus-Christ. C'est pas mal l'expression. C'est marrant si les obus le soient disaient vraiment. Je crois que les parents seraient surpris. Donc, évidemment, c'est dans la tendresse de Jésus-Christ. Hein, Philippiens 2:1, s'il y a quelques entrailles, on traduit ça avec affection. Et à Philémon, Paul écrit, les entrailles des saints ont été reposées par toi, se sont reposées par toi. Traduction, tu as réconforté le cœur des croyants, ou le cœur des saints. Donc, cette image, la compassion est très présente. Toujours à Philémon, Paul écrit, je te renvoie Onésime, lui qui est mes entrailles, un ami très cher, et donne du repos à mes entrailles, Philémon. C'est un mot qui revient, c'est un langage qui revient pour parler de la compassion. Et j'aime bien qu'on traduise avec entrailles parce que le mot compassion, on le connaît pas. Vous voyez ? Il dit plus grand chose, il dit plus les choses qui remuent en nous. C'est juste un de ces mots qu'on connaît trop bien. On ne sait plus vraiment ce qu'il va dire. Et chez Paul, il y a 2 exhortations pour l'ensemble de l'Église. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Dans tendre bienveillance, vous avez aussi le mot qu'il a donné, qui a donné l'entraille. Ça, c'est bienveillance. Et vous avez ça aussi dans Colossiens 3:12, où il parle de pardon. Il dit, revêtez-vous d'entraille de miséricorde. Ça, c'est pour tous les chrétiens, une exhortation, enfin, pour les chrétiens. Pour l'église de Colosse, pour l'église d'Éphèse, c'est à travers eux, pour vous tous ici. Hein? L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, écrit « Soyez tous en parfait accord, pleins d'une tendre bienveillance. » On retrouve ce mot avec un travail. Et un autre texte assez intéressant, celui-là, peut-être plus critique, dans 1 Jean 3, 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, permet d'oublier, comment l'amour de Dieu ne marche-t-il ?» Nous sommes invités à manifester la réalité de notre salut en faisant circuler la grâce. Et dans la circulation de la grâce, il y a le fait de la compassion de ceux qui sont troublés. Et de faire circuler le pardon. Et j'ai envie de dire aussi, mais c'est plus dans une... Dieu qui aime ce monde, Dieu qui a compassion de ce monde, comment il va avoir compassion de ce monde qu'il aime, si ce n'est par l'Église. Dieu, il compte sur l'Église pour manifester son amour au monde. Oui, il a filé le boulot à l'Église, il a filé le boulot à Jésus d'abord, et puis après, comme vous le savez tous, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et dans ce moi aussi je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, ça veut dire, vous faites le boulot maintenant, c'est vous qui faites le boulot. Vous ne voulez pas manifester seulement des belles paroles, mais aussi une manière de vivre. Et donc, être, devenir comme Jésus, capable d'être ému, d'être troublé, d'avoir nos entrailles remuées par un certain de situations. Et voir ce qu'on peut faire avec nos possibilités. Donc, deux choses, faire circuler la grâce qu'on a reçue, sinon on peut se poser la question de savoir justement la parole reçue. Et deuxièmement, au nom du Christ, comme le dit FCC, la grande ONG britannique américaine, au nom du Christ, faire du bien autour de nous pour manifester la bonté de Dieu. Ça, c'est deux choses que je dois souligner par rapport. Alors, maintenant, vivre la compassion ou être compatissant, c'est pas ça. C'est pas si simple. Je ne suis pas sûr d'avoir rencontré beaucoup de gens qui étaient spontanément hyper habités par la compassion. Mais une chose qui est intéressante et qui est vraiment importante, c'est que nous pouvons apprendre. Nous pouvons nous ouvrir à la compassion. Nous pouvons devenir des personnes remplies de compassion. Si on n'est pas à la place. Et la première chose, on l'a déjà dit, mais on l'a surtout dans un autre angle, c'est. Nous pouvons nous ouvrir à la compassion en accueillant la compassion de Dieu pour nous. Je sais qu'à un moment dans ma vie, une fois, ce qui m'a beaucoup aidé, dans tout banal, c'est d'être patient avec les autres, c'est de me rendre compte à quel point Dieu est patient. Ce serait important que vous puissiez réfléchir à quelles sont les manières concrètes dont Dieu vous aime dans vos situations propres. Et de regarder tant en arrière pour vous rappeler, comme dit le psaume 103 d'ailleurs, la partie qu'on n'a pas lue au début, pour vous rappeler les bienfaits de Dieu pour vous. Et pas les oublier, mais en vivre et acquérir de quoi partager avec l'autre. Ça m'a réellement aidé, ça peut me paraître tout bête, hein, mais pour moi c'est très important. Je me rends compte à quel point Dieu était patient avec moi. Et que c'est vraiment, pour honorer cette patience de Dieu, c'est important que j'apprenne à être patient avec l'autre. Et on pourrait multiplier les contenus de ce que nous retenons de Dieu, que nous sommes invités à transmettre à l'autre par rapport à l'amour qu'il a. Alors nous pouvons méditer, hein, Philippiens 18, 35, c'est peut-être. Peut-être sur le pardon. Est-ce que la compassion, est-ce que le pardon de Dieu nous a touché au point que ça facilite notre pardon aux autres ou pas? Ou est-ce que le pardon est un truc qui, à force d'avoir été entendu, est tellement banal, et comme moi j'ai jamais tué personne, ou j'ai jamais été très méchant, j'ai jamais volé, je sais pas quoi, donc on pardonne peu et donc on aime peu, hein, comme j'ai dit dans un autre texte. Et donc ça ne dit pas grand-chose de pardon d'un ange. Une fois ça m'a touché, mais bon. Ou est-ce que ce pardon est une réalité dont je me rends compte qu'elle fonctionne dans un certain quotidien. Un certain quotidien. Et donc ça peut m'aider aussi à lui pardonner les autres. Dans un texte très intéressant de Paul, Romains 12, verset 1 à 2, il écrit « Je vous exhorte, mon frère, par les passions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voici qu'elle sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas seulement si vous serez transfiguré par le renouvellement de notre intelligence. » Les compassions de Dieu, ici c'est un pluriel, parce que les compassions de Dieu pourraient signifier toutes les fois où Dieu a été compassé, à manifester de la compassion pour moi, pour nous l'Église, pour nous les uns et les autres. Les compassions de Dieu sont la raison, sont une base, un fondement pour que nos vies soient consacrées à vivre comme Dieu le demande. L'expérience de compassion de Dieu sont comme un moteur, une motivation à vivre comme Dieu le demande. Ça, c'est ce que Paul dit en Romains 12. Et en plus, si on va dans la suite du texte, les compassions de Dieu sont une des choses qui va nous aider à renouveler notre intelligence, c'est-à-dire à voir les choses autrement. À voir les choses autrement. Il y a toutes les manières de voir les choses, c'est à la base, et puis l'Évangile nous invite à voir les choses de plus en plus dans l'optique de Dieu, dans l'optique de l'enseignement de ce que nous montre l'Évangile notamment, et puis le reste de l'Écriture. C'est un processus. Dans ce processus, l'expérience des compassions de Dieu devrait transformer notre manière de réfléchir et de voir les choses. Pas seulement un truc sentimental. Oh, ça m'a touché, donc ouais, ça m'a touché, donc j'y vais, quoi. Je me fais bouffer éventuellement, comme on l'a dit avant, quoi. Non, non, c'est un truc qui passe par la tête, qui me fait réfléchir autrement. Donc, c'est important que la compassion, c'est... Ça commence par une émotion, un sentiment, ça se poursuit par une attitude, mais une attitude réfléchie pour répondre à la situation qui provoque compassion. Pas juste un truc, je suis entraîné par mes émotions. C'est très moderne, mais ça ne marche pas plus, ça va pas loin. Ici, on regarde, en fait, l'apôtre Paul, c'est pas beaucoup plus passé par notre intelligence. Et je dirais par notre intelligence collective, parce que si Paul parle à l'Église, et on a besoin de réfléchir ensemble, et de discerner ensemble. Ça, c'est une chose sur laquelle je reviens. Après, on peut observer la compassion en regardant Dieu, et surtout Jésus, agir. J'ai lu le commentaire sur cette aveugle qui crie au bord du chemin, et les gens lui disent tais-toi, tais-toi, et Jésus lui s'approche. Il s'arrête, il lui demande ce que cet homme s'approche, et quand je vois comment Jésus fait, on est ici, on est en période préélectorale, hein, et là on dit voilà, l'agent de la foule, alors je fais l'hypothèse que l'agent de la foule, il doit y avoir le service d'ordre, et dans ce service d'ordre, il doit y avoir des disciples de Jésus. Hein. Ça ne va pas approcher, logiquement. Parce qu'une foule, c'est pas comme ça. Enfin, ces gens-là sont en train de dire à la veuve de se taire. Et puis, vous savez comment c'est. Il y a cette idée, surtout dans notre société démocratique, je suis leur chef, donc je les suis. Pour leur plaire. Ils m'élisent. Jésus, il n'a pas peur de dire le contraire. Il a envie de se mettre en porte-à-faux, sans problème avec la foule. Enfin, la partie de la foule qui crie devant. Cette liberté intérieure de dire qu'ils sont tous en train d'aboyer ou presque devant contre cet homme, moi je ne fais pas ça. Et puis tant pis si ça crée des tensions entre moi et les autres. Vous voyez ce que je dis ? Parce que ça, c'est un truc qu'on voit souvent, ça. Hein. On voit souvent. On peut voir ça aussi. Il y a un de mes amis à Strasbourg qui me disait, bah, l'autre jour, je suis dans le métro, il y en avait trois qui tapaient sur un, et moi j'étais là parce que personne ne fait rien. Tout le monde regarde d'ailleurs par la fenêtre, c'est beau, le métro parce qu'on regarde par la fenêtre. Et lui, je dis, qu'est-ce que je fais ? On est souvent dans la foule et on se dit, est-ce que je fais quelque chose ou pas ? Alors ça peut être quatre personnes dans le même bureau, hein, c'est pas forcément dans un salle de foot avec des qui grillent, non, ça peut être dans des. À trois ou quatre. Qu'est-ce que je fais ? On va tous fondre ça. Je me dis, c'est pas clair ce qu'ils font. Est-ce que je vais avoir le courage de lui dire, on pourrait peut-être voir les choses autrement ? Ou est-ce que je vais. Raser les murs, vous voyez. C'est pas facile. pas facile. Et je vois Jésus faire ça, je me dis, waouh, lui, il n'a pas peur de prendre ses distances par rapport à son fan club. C'est pas si évident. Et il y a toute une série de choses comme ça. Jésus parle avec la Samaritaine, et puis à la fin, les disciples arrivent et ils disent, qu'est-ce qu'il a à poser avec une femme ? Il fait des trucs qui surprennent les gens tout le temps. Il surprend. Parce qu'il se laisse arrêter par rien. Rien ne l'empêche d'aller à la rencontre des gens. C'est une femme, c'est pas un problème. C'est une Samaritaine, c'est pas un problème. C'est une femme adultère, c'est pas un problème. C'est un type comme âgé, c'est pas un problème. C'est un lépreux, faut pas que je le touche, c'est pas un problème, je le touche quand même. Enfin, si vous lisez l'évangile, vous trouvez ça tout le temps. Vraiment tout le temps. Il casse les barrières avec plaisir. Avec plaisir. Il y a des parents qui amènent leurs enfants à Jésus. Les enfants, pour les juifs, je vais parler. Les hommes juifs, évidemment, c'est intéressant seulement à partir d'un certain âge. Il y a des nouveaux sous le soleil. Hein, et puis, donc, les disciples sont en train d'engueuler les parents. Jésus, il n'a pas de temps à perdre avec des mômes. Et ils font engueuler à leur tour parce que Jésus est indigné. Un des évangiles dit qu'il est indigné. Il commence à être engueulé en disant laissez les enfants venir. Mais c'est les bébés de venir. Les petits enfants. Et il est en train de créer une dispute, j'ai envie de dire, il est en train de créer une tension. Mais il ne préfère pas créer une tension que passer à côté du fait d'accueillir ses enfants et les parents qui les amènent. Donc c'est très intéressant que son souci de compassion, on le met en porte-à-faux avec ceux qui pensent au son nom. Ils pensent qu'il faudrait rester dans le barrière, dans la tradition, dans la culture, etc. Vous voyez ? Et est-ce qu'on a ce courage de dire non, je ne vais pas te dire. Je vais vous donner une histoire personnelle. J'ai travaillé avec une église. Et dans cette église, il y avait une église de bonne culture évangélique très conservatrice à l'Alsacienne. Hein, ici, ça n'existe pas, je pense, mais à l'Alsacienne, où il faut suivre les règles et tout et tout. Puis il y avait une musicienne qui était venue parce que. Ça manquait de musiciens, donc elle venait de notre église, elle est venue par des copains, etc. Elle arrive, ça m'a servi d'avoir des musiciens. Mais bon, elle est un peu bizarre, elle est hyper maquillée, elle a des machins un peu partout, des piercings et des trucs. Et puis ensuite, dès qu'on a appris qu'elle s'est mise en ménage avec quelqu'un sans être mariée, les gens se sont dit super, on va pouvoir l'ajouter facile. Je parle à tout rappel, mais vraiment. Et puis, donc, je leur ai dit, on va aller parler avec elle, on va parler avec lui, on va voir ce qui se passe, on va accompagner ce groupe. C'est après, on va voir. Mais les autres étaient là, et je me suis engueulé à la fin d'un culte devant tout le monde. Parce que je ne faisais pas la police comme eux voulaient que je fasse la police. Bon. Je pense qu'il y a 30 ans, ça m'aurait stressé. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple, mais c'est intéressant cette idée que quand on veut manifester et vivre comme Jésus nous demande, et on voit Jésus le faire, régulièrement, on est en porte-à-faux. Même avec ceux de l'Église, comme Jésus en porte à soi aussi ici, ou avec d'autres croyants. Et quand je vois Jésus faire ça, ça m'aide. C'est tout con, mais ça m'aide. Quand je vois Jésus agir comme ça, ça m'aide. Quand je vois Jésus capable de devenir quelqu'un, de l'ami de quelqu'un, comme il crée du lien, et une fois qu'il a créé du lien, il peut commencer à faire un cheminement avec la personne, y compris en parlant des choses compliquées. Je trouve ça super, c'est un exemple pour moi. Par exemple, vous prenez la Samaritaine. Je connais des gens, au bout de la troisième phrase, ils auraient dit à la Samaritaine au bout de la troisième phrase, c'est le Moïse ton mec ? Il serait peut-être pris une baffe d'ailleurs en réponse. Mais Jésus, il arrive à parler de ça, mais pas tout de suite, parce qu'il crée d'abord le lien. Et puis au bout d'un moment, il arrive à en parler, il dit au fait, ton mari, là. Et ça, je trouve que c'est super, c'est un modèle pour moi. Ça veut dire qu'on peut parler de ce qui est compliqué chez les gens sans être moralisant, mais parce que c'est un problème. Je veux dire, en général, ce genre de. Jésus ne parle pas du principe que celui qui pouvait changer de même tous les 8 ans. Non, il y a une difficulté, une étape problématique. Et il attend ça d'une manière positive, en pas positive au sens où. Comment tu t'en sors ? Qu'est-ce que tu dis ? Et pas en disant, ah, c'est la loi qui que, et quoi, ouf, dehors. Jésus est un exemple pour moi, dans plein de choses. Et je pense qu'il devrait être pour chacun d'entre nous, et je pense qu'il l'est jusqu'à certains points. Mais je pense que pour encourager à ça. J'ai plus appris de la compassion en regardant Jésus faire qu'en lisant des bouquins sur la compassion. Ou en écoutant des types parler de la compassion. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et l'autre chose aussi, c'est de regarder les témoins. De lire des bouquins sur des chrétiens, des missionnaires, des grands chrétiens, voir comment ils ont fait. Voir comment Henri Dunant a été touché par les blessés dont personne s'occupait, qui mourraient à la fin des batailles et créer la Croix-Rouge. Enfin, et ça. Et vous pouvez trouver des choses épatantes. Vous connaissez Saint François d'Assise, elle voulait suivre Jésus à fond. À fond. Vous êtes disciple de Jésus à fond. Et puis un jour, il se balade, et il y a un hébreu qui crie. Il sort très connu, hein. J'ai le catholique en tout cas, si je sais pas. Et il y a un hébreu qui crie. Et lui, il dit, ça le dégoûte, il s'en va. Et puis il ne se va pas. Parce que je suis chrétien, je suis pour Jésus. Et il va et il embrasse le hébreu. Moi, ça me touche. Parce que moi, j'ai peur de ce moment. Vous voyez, j'ai envie de passer à côté. De ne pas voir s'il y a. Et vous avez comme ça des témoins dont il faut qu'on s'inspire. Parce que leur témoignage est un enrichissement pour nous. Et par exemple, alors ça je sais pas si le plus ancien sera peut-être, un gars qui s'appelait Raoul Folro, qui était l'homme qui embrassait les lépreux. Il n'en fait pas plus de 30 ans, mais c'était l'homme qui embrassait les lépreux. Parce qu'il voulait montrer que les lépreux n'étaient pas si contagieux que ça, et il travaillait pour l'insertion. Enfin, c'est un type extraordinaire. On a de quoi apprendre en s'inspirant de ce que les autres, et alors, en général, comment ils mangent, ont fait, mais comment ils ont dépassé leurs difficultés, leur rejet pour aller à la rencontre des gens. Donc, voilà, c'est le processus d'apprentissage qui sont à notre disposition, de contemplation de l'œuvre de Jésus et d'apprentissage du témoignage des autres. Il y a un travail intérieur à faire de libération quand on est trop coincé, mais ça, c'est son esprit de faire son boulot. C'est son travail de mettre en nous un cœur nouveau. Contre le prophète Ézéchiel, parlant des temps de la fin, prophétise, c'est Dieu qui parle. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, l'esprit et le cœur, ça va ensemble. L'esprit nouveau construit un cœur nouveau. Alors, ça met un temps fou pour que le cœur nouveau s'installe. C'est pas une baguette magique qui fait ça. Et l'amour d'esprit, de toute façon, lentement, parce qu'il va en profondeur. Mais prier pour que l'esprit travaille en nous, travaille notre intériorité, fasse pousser son fruit en nous, ça c'est très important. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il faut de la maîtrise de soi dans la compassion. Est-ce que vous êtes d'accord ? Excusez-moi, je ne veux pas commencer là-dedans parce que c'est flippant. Les pauvres, ça va quoi. Je les aime bien de loin, ou une fois par an pour le reste du cœur. Je ne suis pas le pauvre. Je connais une église qui a acheté un bâtiment en copropriété. Eh bien, des gens d'église qui participaient à l'achat se sont engagés auprès de nos copropriétaires à ne pas faire du social pour que les pauvres n'aiment pas pendant la semaine. À l'église. Donc pas de bestiaire, pas d'instruction de nourriture. Ça s'est passé quelques années. Enfin, c'est une histoire vraie, enfin, je veux dire, on sent bien ces gens-là. J'en connais quelques-uns, c'est les pauvres, moins ils les voient concrètement, plus ils les voient à la télé, ça va, moins ils les voient en réalité, mais ça va aussi. Donc il faut que Dieu travaille tout ces choses. Parce que dans ma tête, je peux être d'accord. Et ça m'arrive souvent, dans ma tête, je suis d'accord avec l'évangile. Je me rends compte que dans mon cœur, il y a plein d'autres choses qui vont dans l'autre sens. C'est, je pense, classique du disciple. Hein. Quand on est disciple, on vit ça. Si on ne vit pas, on n'a pas vraiment envie de disciple. Parce qu'être disciple, c'est aller au-delà de ce qui nous appelle spontanément. Très souvent. Et donc, c'est important de demander à l'esprit. Et que notre amour soit plus grand. Et l'amour, c'est d'abord d'apprendre à se. Donc la compassion demande de l'amour, se décentrer de soi pour s'intéresser à l'autre et à ce qu'il dit. Se décentrer de soi. Et pour se décentrer de soi, il faut être en paix. Les gens sont centrés sur eux-mêmes, ils sont centrés en permanence, donc ils sont tout le temps centrés sur eux. Ils parlent tout le temps d'eux, ils ont tout le temps, ils nous cassent les mouvements, leurs problèmes, leurs machins, leurs trucs, tout le temps autour d'eux. Mais c'est le stress qui fait qui se moigne. Se décentrer suffisamment en paix pour s'intéresser à d'autres et à ce qu'ils vivent. S'intéresser à leurs problèmes, à leur situation, et pas seulement à nous. Avec Pierre, on a dit cette phrase, j'ai retenu, c'est peut-être la seule que j'ai retenue, et là, parce que je ne suis pas très bon en mémoire, mais il a dit, qu'est-ce qu'une vie à ne s'occuper que de soi? Ça de quoi une vie où on ne s'occupe que de soi-même? Super question pour les habitants du 21e siècle, je trouve ça très. Waouh, on n'a pas fait ça comme une tendance entre ça aujourd'hui. On nous demande tout le temps de nous occuper de nous-mêmes, notre confort, notre machin, notre truc. Je trouve ça extrêmement fort. Est-ce qu'on est prêt à se décentrer sur une place pour se décentrer et apprendre à se décentrer? On ne peut pas rencontrer vraiment quelqu'un, on ne peut pas vraiment écouter quelqu'un si on n'est pas décentré. Ce n'est pas simple. Alors vous avez des discussions, vous essayez de dire un truc, et au bout de la deuxième phrase, l'autre il vous dit « Ah mais moi je… » Et hop, il nous parle de sa propre vie, et il n'a pas écouté ce que vous voulez dire. Ça c'est… J'en rencontre, vous en rencontrez tous des comme ça. Rencontrer vraiment quelqu'un, comme Jésus rencontrait vraiment les autres, leur donner l'importance, et donc l'écoute, dont ils ont besoin. Ils ont besoin. Et donc, pas tout le temps préoccupé par nos propres soucis, nos propres intérêts, etc. Parce que sinon, ça ne marche pas en groupe. Et on ne rencontre pas. Et la compassion, ça demande de la patience. Aider les gens, ça prend parfois beaucoup de temps. Et si on veut les aider réellement et pas arranger les choses à leur place, eh bien ça prend le temps. Ça prend le temps. La compassion, l'amour pour la conscience, c'est aussi apprendre à s'ouvrir à l'autre quand il nous raconte ses problèmes, ou parfois quand il nous raconte ses souffrances. Moi je suis un mec normal, si quelqu'un me raconte un truc et commence à pleurer, hop, à la base j'ai plus. Parce que ça remonte autre chose. C'est tout un boulot de se dire je l'écoute jusqu'au bout et je laisse de côté ce que ça provoque en moi. Parce que je suis tellement centré sur lui que j'écoute même plus ce que ça provoque en moi. Ça c'est plus compliqué, mais on peut y arriver. Au moins dans certaines situations, même si c'est jamais arrivé. C'est un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage. Accueillir les émotions de l'autre sans que nos émotions polluent l'écoute. Dans un bouquin que j'ai lu, quelqu'un disait « Les barrières s'élèvent facilement pour éviter que la souffrance de l'autre nous rejoigne. » Ça aussi, c'est un apprentissage de laisser nos émotions nous travailler et ne pas fermer tout de suite notre cœur. Parce que la compassion, c'est surmonter, dans certains cas, c'est surmonter la réflexion, et là je pense aux épreuves. Ou ça peut aussi surmonter l'indifférence, et là vous avez le bon samaritain. Ça peut surmonter les préjugés, c'est un pécheur. Ou c'est bien fait pour lui, c'est lui arrivé, il a bien mérité. Mais c'est ça. Une fragilité, c'est pas tout de sa faute, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que t'as pas besoin de t'en faire. T'as toujours été en disant c'est ça. Il n'a qu'à pas avoir autant. Ou il a qu'à pas faire ceci ou ça. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Ça va te remonter. Jamais il dit c'est pas faute. Il pourrait sans doute. Il pourrait dire pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait tel choix, pourquoi. Mais ça ne bouge pas ça. Et en fait, vous vous rendez compte que si vous commencez à parler comme ça, vous aidez pas ça. Surtout si vous commencez comme ça. Si vous construisez une bonne relation, au bout d'un moment, la personne peut commencer à vous dire des choses un peu plus personnelles, et là, peut-être d'elle-même, elle dira, j'ai fait ça à cause d'eux, et puis. Mais si vous commencez tout de suite comme une barrière en disant, vous êtes des armes, c'est normal, ça t'arrive. Là, c'est cuit, quoi. Et ça, c'est juste ce qui s'apprend. Donc, sûrement, c'est les préjugés, l'indifférence, la répulsion, pour commencer à agir autrement. Ça, c'est vraiment des choses. Puis la compassion demande du courage. Il faut qu'on surmonte nos peurs. Pour surmonter nos peurs. Par exemple, certains disent que si le prêtre avait touché l'homme par terre et que cet homme avait été mort, le prêtre aurait été impur. Donc il aurait dû se faire purifier, faire les sacrifices, enfin bref, et se mettre à l'écart pendant un certain nombre de jours. Peut-être qu'il y a eu peur de ça. On n'en sait rien, mais surmonter nos peurs. La peur des gens qui ne sentent pas bon, la peur des gens qui sont habillés bizarrement, la peur des gens qui. Etc. Et donc sortir de nos zones de confort et de sécurité. Je pense que ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, peut-être plus qu'avant. On est tellement dans des obsessions de protection et de choses comme ça qu'on a du mal à sortir de nos zones de confort et de sécurité. Et puis le courage, le billet pris. La compassion, ça coûte. Le bon samaritain, il a mis le bonhomme dans une auberge, il a payé et il est parti. Ça a coûté quelque chose. On ne peut pas vraiment aider sans que ça ne coûte rien. Et ça me fait penser à cette phrase de l'apôtre Paul. Jésus qui de riche s'est aidé, s'est fait pauvre pour vous, afin que vous soyez enrichi. Que c'est ça? C'est un fonctionnement de compassion. Et si j'avais une phrase que j'ai attrapée dans ma chambre, que j'aime beaucoup, et qui est aussi assez classique, d'une compassion purement émotionnelle, c'est un gars qui chante et il dit « Je voudrais tout donner, mais je voudrais rien faire. » Je voudrais tout donner, je voudrais rien faire. C'est bon. Quand je creuse un peu, parfois je suis bête. C'est clair. Oui, c'est l'heure, je suis bon. Il y a plein de choses comme ça qui tirent en arrière, que je suis content d'avoir, mais que je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas faire n'importe quoi, hein, je le redis. Mais on est habité par des contradictions, et il faut travailler ces contradictions, que la grâce doit travailler. Alors, la compréhension demande de la sagesse. C'est un thème dont on parlait avant. Il faut de la sagesse. Parce que aider, c'est très compliqué. Si nous voulons aider en préservant la dignité de l'autre, se faire proche de lui, tout en restant dans une relation face à face, et tout en gardant une distance liée au respect de l'autre, eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile. Et les bons sentiments, ça suffit vraiment pas. Vraiment pas. Si je veux vraiment aider, je dois me poser la question de savoir est-ce que je suis prêt à aider la personne telle qu'elle est, ou est-ce que je veux l'aider pour qu'elle devienne comme moi je voudrais qu'elle soit. Ça, c'est une question classique. Est-ce que je veux l'aider pour qu'il grandisse? Est-ce que je veux l'aider pour lui? Ou est-ce que je veux l'aider en disant, regarde, ou est-ce que je veux l'aider en jouant à la castafiore? Je me dis, comme je suis beau dans ce miroir, quand je me vois aider l'autre, vous voyez? Ça, ça marche tellement, tellement, tellement fort. Surtout si on est culpabilisé par les discours qui disent, faut faire ci, faut faire ça. Et si la culpabilisation nous fait perdre des choses, et qu'on reste à la culpabilisation, on ne va pas très loin. À un moment, il faut lâcher ce truc pour aider la personne pour elle-même, et pas pour que je regarde dans le miroir en trouvant plus beau après. Parce que là, je ne fais pas du bon goût, je ne suis pas décentré, je ne peux pas faire du bon goût. La sagesse, c'est aussi le bon jugement. On a déjà dit ça plusieurs fois. Mais Jésus est lâché, la femme pécheresse, la femme adultère, la samaritaine, et tous les autres, il n'y a pas de jugement. On peut parler de ce qui ne va pas. On peut parler du péché. On peut dire, on ne pêche plus. Tout à la fin, une fois qu'on a bien travaillé, qu'on a arrivé à quelque chose. On ne commence pas par ça de toute manière, et on n'est pas jugeant. Si vous êtes jugeant, demandez à Dieu de vous débarrasser de ça. Parce que parfois, on est jugeant, ça, c'est une manière de gérer notre peur de l'autre. On est jugeant, ça nous met dans une situation où on se sent dans la bonne position de celui qui juge. Et inconsciemment, il y a des mécanismes qui se mettent en place comme ça. Et on a parfois du mal à lâcher le jugement, pas seulement parce qu'on peut trouver le genre du temps, mais aussi parce que ça nous. C'est une position de confort pour nous, dans la relation. Il faut qu'on lâche cette position de confort. Si on peut rencontrer vraiment la personne. Non-jugement, c'est aussi de refuser ces choses qui se disent c'est sa faute, c'est dans cette situation, et donc je ne l'aime pas parce que je ne sors à rien. Non, je pense que c'est vraiment très important. ne pas se laisser manger par l'autre, ça c'est clair. Et quand on se laisse manger par l'autre, c'est souvent qu'on est dans ce truc où on se dit « Ah, je suis beau quand j'aide l'autre », vous voyez. Et à ce moment-là, il y a plus un moment où on peut perdre la limite. Parce qu'on le fait pour se regarder après dans le miroir. Et donc, quand on se laisse manger par l'autre, en général, c'est qu'on l'avait voulu, il n'y a pas de mystère. C'est qu'on est entré dans une relation qui n'était pas saine. Et qu'on y est entré parce qu'on a mis des motivations qui ne sont pas très claires. Qu'on a besoin de clarifier un moment ou un autre. Ne pas se laisser manger par l'autre, c'est aussi une chose qui peut nous aider, c'est qu'on est là pour aider la personne à porter son souci. On n'est surtout pas là pour porter le souci à sa place. Parce que là, ça aide personne. Porter le souci à sa place, ça aide personne. Mais nous l'aidons à porter et nous essayons, bon, il y a des cas psychiatriques où ça ne marche plus, mais nous essayons de l'aider à faire ce qu'elle peut et nous de faire ce qu'elle ne peut pas faire. Mais on ne fait pas tout à sa place. Sinon, ça ne devient plus un être humain, ça devient autre chose. Une espèce d'objet de compassion, mais c'est pas... La sagesse, c'est aussi de faire les choses ensemble. Évidemment, on aurait dû commencer par ça. Ensemble. Parler avec d'autres. De comment on s'y prend, de ce qu'il faudrait faire, discerner. Prier avec d'autres, discerner. Dans notre église, à Strasbourg, il y a un groupe de diacres qui suit des personnes qui sont en situation sociale compliquée. Eh bien, c'est super, moi j'ai été dans ce groupe en tant que pasteur pendant des années, c'est super parce que on peut réfléchir ensemble aux personnes qu'on accompagne. Et ça, c'est irremplaçable. Dès que vous dites « je veux me manipuler tout seul », le temps, c'est une alerte dans votre tête, on dit « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Je m'en occupe tout seul, c'est peut-être que je suis plus préoccupé par moi-même que par la personne que je suis censé aider. Si je suis vraiment dans le souci d'aider, alors je vais travailler avec l'autre. Je vais travailler avec l'autre et puis aussi je vais facilement passer le relais à des gens plus compétents. Le bon samaritain qui ne peut pas emmener le bonhomme avec lui, ou qui l'a mis dans une auberge, où le gars pouvait se reposer, se refaire tranquillement, et donc il va passer le relais. À Strasbourg, on rencontre des gens qui sont dans des situations parfois compliquées. On n'est pas obligé de faire le boulot nous-mêmes. On peut très bien les voir comment l'armée du salut peut les aider, comment l'assistance peut faire une carte, qu'est-ce qu'elle peut faire, ou etc. Et à Strasbourg, on a le confort d'avoir une association de psy chrétiens qui s'appelle la Traversée. Et bien, assez régulièrement, je pense que sur 8 ans, je leur ai envoyé 5-6 personnes, parce que c'était beaucoup plus doué pour moi que moi dans certaines difficultés. Donc on passe le relais. Et ça, c'est vraiment génial. Parfois, dans l'église, on a des personnes qui ont les compétences, et parfois, elles ne sont pas dans la communauté, elles se trouvent chez d'autres chrétiens. Et c'est important de pouvoir passer le relais, de ne pas s'imaginer beaucoup. La compassion, c'est un aspect central de la communauté chrétienne. Et l'apôtre Paul le souligne quand il dit en Galates 2, portez les fardeaux les uns des autres. Vous connaissez tous cela, c'est portez les fardeaux les uns des autres. Et il dit en plus, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Waouh, c'est pas rien ça. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. L'Église devrait être un lieu de secours réciproque. Et toute la sagesse dont on a besoin, la bonne distance qu'il faut trouver, la bonne manière d'entourer chacun, et puis on ne peut pas entourer tous de la même manière, on découvre dans la relation qu'est-ce qui est juste et intelligent de faire, dans la relation et dans le dialogue avec les autres frères et sœurs. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'entre pas dans une relation. Donc ce n'est pas une relation. Ce secours réciproque dans la communauté participe à construire la fraternité. À construire la fraternité. Chaque fois que vous vous intéressez vraiment à quelqu'un, que vous comprenez et reconnaissez ses sentiments, vous construisez la fraternité. c'est à ce qu'il pense, c'est à ce qu'il ressent. Alors vous construisez la communion. La compassion, c'est pas mon terme, j'aime pas. La compassion, c'est aussi ce qui devrait nous aider à témoigner de l'amour du Christ. Dans l'écrit, l'amour du Christ nous presse pour expliquer sa démarche missionnaire dans 2 Corinthiens 5, 14. Et ça nous demanderait à nous exposer. On ne m'insiste pas là-dessus, mais c'est important. C'est pas non plus la culpabilité qui devrait nous aider à parler de Jésus, à ce que nous aimons, à ce qui nous entoure. Mais c'est le souci. Le souci qu'il puisse rencontrer Jésus et recevoir de lui ce que nous avons reçu. Voilà quelques remarques en vrac sur la compassion et l'exercice de la compassion. Je m'arrête là. Et j'aimerais vous inviter à un autre avis en groupe, si ça va. Dans ma présidente. Et là aussi, je vous propose un temps de partage. Un temps de partage. Avec, comme première question, de raconter une expérience une expérience de compassion que j'ai vécue. Quelqu'un a eu compassion de moi. D'accord ? Que j'ai reçu, que j'ai vécu comme celui qui a reçu. Comment quelqu'un a eu compassion de moi ? Puis la deuxième question, c'est l'inverse. Une expérience positive où j'ai pu aider quelqu'un. Poussé par le souci de lui, poussé par le souci de cette personne, moi j'ai pu aider quelqu'un. Et puis troisième partage, ce qui peut être difficile, peut-être aussi être intéressant, c'est j'ai essayé d'aider quelqu'un, mais ça n'a pas marché. Et j'ai eu un échec. Donc ça devrait être assez vite. La grande question, c'est mes difficultés. Quelles sont mes difficultés à être compétition, à avoir compassion pour l'autre? J'espère que vous serez assez. Dites-le si vous ne voulez pas dire que vous ne le dites pas. Mais c'est toujours intéressant de dire à quelqu'un d'autre. Ou est-ce que c'est compliqué pour moi? Ça peut juste m'aider à recevoir de lui une parole, un encouragement, quelque chose, ou une manière de voir la situation qui peut être aidante. Et enfin, une dernière, comment être témoin de compassion ensemble, en Église? Comme on a dit avant, c'est compliqué tout seul. C'est pas toujours très simple d'être tout seul en plus. Mais comment être témoin de compassion ensemble? On prend les mêmes. Allez, on prend les mêmes. Ça va? Vraiment, vous n'êtes pas cher de groupe et vous voulez changer, mais sinon, comme vous avez déjà bien commencé, j'ai l'impression que vous avez tous coupé la parole, vous pouvez continuer à prendre les mêmes.